Vous écoutez RTL.
Il est 18h.
RTL Soir, Christophe Ponzio.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Une demi-heure d'information avec à la une la mort d'une légende de la radio et grande voix de RTL. Meni Grégoire, la célèbre animatrice de la rue Bayard, venait de fêter ses 95 ans. Dès 1967, 3 millions d'auditeurs étaient derrière leur poste pour écouter Allô Meni.
RTL.
Je voudrais parler à Meni Grégoire, s'il vous plaît.
Oui, ne quittez pas. Allô, Madame
Méni Grégoire. L'écoute des autres sur RTL est pionnière de la radio. Elle avait vulgarisé la sexualité, contraception, homosexualité, des tabous brisés à l'époque. Retour sur cette carrière qui va bien au-delà des ondes avec Laurent Marsigue dès le début de ce journal et avec notre invité, le sociologue et historien Patrick Evenot. Renaud Lavillenie, indétrônable en saut à la perche, en or pour la troisième fois consécutive au championnat d'Europe d'athlétisme. Deux autres médailles françaises aujourd'hui, notamment en marathon avec le titre de Christelle Donnet. On se dirige vers un record. La suite de la deuxième journée de Ligue 1 de football, Paris-Bastia, 1-0 actuellement pour le PSG. On va vous retrouver, Philippe, dans un instant. Également dans ce journal, nous irons à Toulouse où un homme de 24 ans a été tué dans le quartier sensible du Mirail. Un quatrième règlement de compte depuis le début de l'année, mais le deuxième en deux jours. En Ukraine aussi, nous partirons où c'est la grande confusion autour de la destruction ou non de blindés russes. François Hollande appelle à la retenue. Et puis un concert hommage à Grégory Lemarchal ce soir à la télévision. Il y a 10 ans, le chanteur entrait puis remportait la Star Academy avant de mourir de la mucoviscidose. Son père sera l'invité de ce journal. Jusqu'à près de 600 km de bouchons cumulés ce samedi sur la route. Ce soir, encore quelques ralentissements, Sébastien Datta.
Oui, principalement dans le sud du pays, sur la route des retours. Ça coince encore sur l'A7 entre Orange et le sud de Valence. Sur l'autoroute A9, toujours quelques coups de frein dans les deux sens aussi à hauteur de Montpellier et de Perpignan. Pas très loin de là, vous êtes toujours ralenti sur l'A61 entre Carcassonne et Narbonne, mais également à l'approche de Toulouse. Patience enfin sur l'A10 à Tours ou sur l'A71 à Clermont.
Le quintet plus à Deauville, il fallait jouer le 12, le 10, le 4, le 13 et le 11. La météo, bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir.
Vous nous avez presque gâtés aujourd'hui.
Oui.
Pour demain, est-ce que ce semblant d'été tiendra bon?
Non, pas sur la moitié nord, c'est raté.
Merci.
C'était aujourd'hui, il fallait en profiter. Dès demain matin, ça va être assez chargé entre le Finistère et le nord. C'est pas du gros mauvais temps, mais ce sera plombé avec quelques petites averses. Et puis peu à peu, ça va glisser un peu plus en avant. Donc ce sera couvert aussi entre le Morbihan et les Ardennes, en passant par l'Île-de-France. Et le ciel sera bien nuageux. Également, des Pays de Loire jusqu'à l'Alsace. Donc c'est au sud de toutes ces régions que finalement il fera encore un temps magnifique toute la journée. Mais c'est vrai que pour l'extrême nord, bah, c'est un peu raté sans que ce soit épouvantable. Température, en revanche, un peu détestable encore. Toujours un peu juste. Que ça part de 18 degrés à Boulogne-sur-Mer demain après-midi pour atteindre 29 degrés à Nîmes. Comptez 21 à Paris, à Reims, à Laval et à Vannes.
Merci Valérie Quintin.
RTL Soir, Christophe Ponzio.
Avant de revenir sur la mort de Meni Grégoire, voix mythique de RTL, partons d'abord pour les championnats d'Europe d'athlétisme à Zurich et l'incroyable Renaud Lavillenie qui décroche son troisième titre consécutif de saut à la perche. Jean-Michel Rascol.
Effectivement, il y a eu deux concours, le concours des autres concurrents et puis le concours de Renaud Lavillenie qui a démarré à 5m65 alors que tous étaient pratiquement déjà éliminés. À 5m80, il efface la barre au premier essai. À 5m90, il se fait plaisir à son deuxième essai. Puis ensuite, le concours terminé est donc remporté. Il tente à 3 reprises 6m01 pour établir un nouveau record des championnats. Et là, il échoue un petit peu dans l'euphorie. À chaque fois, des petits réglages et il emporte avec lui la barre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Kevin Ménaldo, un jeune sauteur français, l'accompagne sur le podium avec 5m70. Ce jeune homme, lui, s'est bien battu dans l'autre concours, vous l'avez compris, pour se hisser jusqu'au podium. Donc, 2 médailles du côté du saut à la perche. La France est toujours en tête au classement des médailles à l'heure où je vous parle.
Et on attend évidemment les premiers mots de Renaud Lavillenie, j'espère, d'ici la fin de ce journal. La journée, il faut bien le dire, Jean-Michel, avait bien commencé avec un marathon, lui aussi, en or.
Oui, si je vous dis 2h, 25 minutes, 34 secondes, eh bien c'est le temps, nouveau temps référence de ces championnats d'Europe pour Christelle Donnet, qui a notamment devancé Valeria Straneo, l'Italienne vice-championne du monde. Elle était 4e au marathon de New York, la Française. Elle a mis entre parenthèses sa carrière de kiné pour se consacrer à la route, au bitume et au marathon. Et on écoute sa première réaction.
Je venais chercher la médaille d'or. Je n'étais pas la seule. On est parti sur des bases très élevées. Il fallait maintenir, être patient. forte. J'y croyais parce que je savais que j'étais très forte. Et cette médaille, je la voulais, je l'ai. Et merci à tous du soutien. Parce que c'est beaucoup de sacrifices pour gagner sur marathon. Et je suis très heureuse.
Bravo à cette Marseillaise qui aura 40 ans dans quelques semaines, quelques mois encore, pour vous dire que Mélina Robert-Michon est pour l'instant troisième au lancer du disque, mais le concours n'est pas terminé. Et puis les quatre relais français, 4 x 100 et 4 x 400, se sont qualifiés pour les finales de demain.
Merci beaucoup Jean-Michel Rascol, on croise les doigts, vous étiez en direct de Zurich au championnat d'Europe d'athlétisme.
RTL Soir.
C'est un sourire, une voix familière de RTL qui disparaissent. Méni Grégoire s'est éteinte hier alors qu'elle fêtait son 95e anniversaire. Sur RTL pendant 15 ans, à partir de 1967, elle a animé l'émission qui l'a rendue célèbre, Allô Méni, un dialogue, des échanges avec des auditeurs, des auditrices, brisant les tabous de l'époque et à l'écoute de leurs problèmes.
La première fois que je suis arrivée, on m'avait demandé de faire parler les femmes. J'ai amené une des lettres innombrables qu'on m'écrivait après mes articles de Elle. Et j'ai fait une réponse. Et puis, le lendemain, il y avait 50 lettres. Et puis, j'ai recommencé. Et puis, il y a eu des lettres et des lettres. Et puis, des coups de téléphone. Et puis, c'est devenu l'émission que ça a été pendant 14 ans et demi. De toute façon, je suis restée la seule longtemps. Je pense que c'était très particulier, ce que j'ai fait. D'abord, c'était un peu mon métier. Je faisais de la psychanalyse. Donc, je savais que les gens pouvaient dire tout ou ne pas tout dire. Et jusqu'à un certain point, je crois que j'ai su non seulement les mettre en confiance, mais leur tirer ce qu'ils n'osaient pas dire.
Méni Grégoire qui parlait de ses débuts à la radio sur RTL. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir.
Qui se cachait donc derrière cette voix chaleureuse?
Née Marie Laurentin à Cholet dans le Maine-et-Loire le 15 août 1919, c'est elle qui se rebaptise Méni. Parce qu'elle trouvait son prénom Marie trop religieux, elle sera donc Méni Grégoire. Diplômée en lettres, arts et archéologie, elle se lance comme journaliste d'abord dans la presse écrite, puis Jean Farin, vient de l'expliquer, directeur de RTL, la recrute au milieu des années 60. Elle vient d'écrire un livre sur l'égalité dans le couple et la contraception. Sur RTL, pendant une quinzaine d'années, elle va donc donner la parole aux auditeurs sur des sujets encore tabous, le sexe, la violence conjugale, l'amour, l'homosexualité. Une révolution, dit son voisin de bureau Michel Drucker, avec Brice Dugénie.
Il faut resituer ça dans la France des années 75. C'était incroyable. C'est la première fois qu'on entendait orgasme, frigidité, je ne peux pas jure avec mon mari, je suis en panne d'érection. C'était une révolution à l'époque. Hein.
Allô ?
Bonjour madame.
Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que l'orgasme.
En 15 ans, 100 000 lettres reçues avec parfois des situations dramatiques.
On me dit que j'ai un coup de téléphone très urgent. Je crois qu'il faut que je le prenne maintenant. Allô ?
Allô ?
Allô, oui, bonjour.
Bonjour oui. Madame. Je m'excuse, ça a peut-être été un petit peu décousu parce que je suis...
Ça n'a pas d'importance.
Je suis très ébranlée.
Oui.
Mon intention première était de me suicider aujourd'hui.
De vous suicider aujourd'hui ? Pourquoi ?
Et elle prenait son rôle très au sérieux, raconte encore l'animateur Fabrice.
C'était une femme qui avait un certain bon sens, qui prenait incontestablement très à cœur ce qu'elle faisait, qui prenait le public au sérieux. Elle ne se moquait pas du public, elle était concernée par ce qu'elle entendait. Moi, je me rappelle qu'elle y prenait part. Ça, elle pouvait être attristée ou choquée par certaines choses, etc. C'était sûrement très sincère.
Je pense que vous allez raccrocher. Hein, je vous entends regarder si on m'écoute. Vous allez raccrocher et on va vous rappeler. On a votre numéro de téléphone.
Oui,
bon, on va vous rappeler et on va vous donner le moyen d'appeler tout de suite notre assistante sociale.
Comme une thérapie publique, elle reste aujourd'hui encore, on le voit hein, dans les réactions sur Internet, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a marqué le public. Elle se souvenait, elle, d'une anecdote la plus forte de sa carrière, disait-elle il y a quelques années.
Je faisais des émissions en province, au public. Et à la fin de l'émission, dans le fond de la salle, est arrivée une femme que je ne connaissais évidemment pas, avec un bouquet comme ça, énorme. Elle m'a remis le bouquet et elle m'a dit « Ce n'est pas moi qui vous l'offre, c'est une morte. » Je lui ai dit « Morte ?» Et elle m'a dit « Oui, je suis infirmière d'hôpital. Il y a une femme que j'aimais beaucoup, que j'ai soignée jusqu'à sa mort. Elle vous écoutait tous les jours sur son lit. Et à la fin, elle m'a dit « Voilà, quand je serai vraiment sur les derniers moments, soyez gentille, mettez-moi cette cassette avec la voix de Méni Grégoire. »
Et au-delà des femmes, Laurent Marsic, des couples aussi, elle a osé aborder des sujets encore plus tabous à l'époque, comme l'homosexualité.
Oui, alors parfois maladroitement, hein, comme le dit l'homme politique Jean-Luc Romero.
C'était même complètement tabou, notamment dans les médias. Il faut savoir qu'il y a quoi, une quinzaine d'années que l'homosexualité est désormais un sujet qui est traité à part entière. Et je rappelle quand même que l'homosexualité était pénalisée jusqu'en 1981 et qu'il y a toujours eu autour de ces questions des débats très très passionnels.
Comme ce jour de mars 1971, émission en public, le titre « L'homosexualité, ce douloureux problème ». Rien ne va se passer comme prévu lorsqu'un prêtre invité dans l'émission explique que l'Église a toujours eu pitié des homosexuels.
Comme prêtre, je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations.
Ne parlez plus de votre souffrance,
oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune.
Et de Ménie, il reste quand même tout ce travail radiophonique pendant ces années, qui a servi ensuite dans des colloques, voire des universités, dit enfin Philippe Labreau, ancien vice-président d'RTL.
On n'imagine pas aujourd'hui l'importance de cette femme, son rôle, son influence, le respect que j'ai pour elle, l'admiration que j'ai pour elle, ne s'effacera jamais. Nous avons eu affaire, je pèse mes mots, à une femme d'exception.
Oui, c'est Ménie, bonjour. Vous m'appelez, vous m'écrivez depuis 2 ans et je vous écoute tous les jours. Et je crois que je vous entends, vous et le bruit que fait votre vie, surtout les jeunes, parce que vous êtes plus vivants, plus neufs.
Merci. La voix de Ménie Grégoire. Et notez, Laurent Marsic, que demain, RTL rendra hommage à Ménie Grégoire demain dans une émission spéciale entre 14h et 15h, émission présentée par Gauthier Ourcade. Invité de ce journal, Patrick Evenot, sociologue et historien des médias, professeur à la Sorbonne à Paris. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
On le disait, hein, la psychologie, la sexualité, l'intimité des Français, autant de sujets tabous. Ménie Grégoire était vraiment une pionnière. Que laisse-t-elle derrière elle ?
Écoutez, quelque chose d'extraordinaire d'abord parce que pendant 15 ans, elle a accompagné la transformation socio-culturelle de l'ensemble des Français qui découvrent le droit au plaisir, le droit d'être en couple de façon égalitaire. Il faut penser qu'au milieu des années 60, on est encore dans une société très patriarcale et que vraiment, elle accompagne cette mutation avec sa voix chaleureuse, avec ses questions, avec ses réponses assez extraordinaires. Ça, c'est vraiment le point important de Ménie Grégoire. C'est une personne qui sait faire parler les gens et qui sait écouter, qui ne se moque jamais des auditrices, surtout les auditrices, puisqu'il y a aussi des auditeurs, mais il y a beaucoup d'auditrices. Ouais. Et puis, par ailleurs, elle note dans ses petits carnets, elle conserve les lettres, et il y a plus de 100 000 lettres qui ont été conservées dans ses archives et qu'on a pu exploiter. C'est vraiment une photographie de la sexualité, des rapports de mariage, des rapports sexuels en France entre 1967 et 1982. C'est une énorme photographie parce qu'il y a plus de 100 000 lettres qu'on a pu dépouiller pour essayer d'en faire, oui, pour montrer ce que pensaient les Français.
Patrick Evenot, ce dialogue libéré du quotidien a été aussi possible grâce à la radio. Hein. C'était aussi un média, oui, incroyable à ce moment-là.
Il est évident que le média est très important, hein, parce que la télé est très compassée à l'époque, c'est l'époque de Gaulle encore, et puis de Pompidou, donc c'est vraiment une télé très compassée. La presse, il y a la presse féminine qui parle un peu, mais avec des sous-entendus, et là, la radio est beaucoup plus libre. Et c'est, ce qui est étonnant, c'est que c'est l'après-midi, entre 15h et 16h, que Ménie Grégoire écoute les auditrices, ouais, etc. C'est donc, les enfants sont à l'école, donc ils ne sont pas touchés, mais voilà, c'est intéressant.
Et puis elle venait d'un milieu plutôt aisé, bourgeois, catholique, voilà, ça vous étonne ?
Non, pas vraiment, parce que dans les milieux bourgeois et catholiques, il y a aussi des gens qui savent tenir compte des autres. Et puis, peut-être la psychanalyse l'a beaucoup aidé à découvrir et à faire découvrir à ses auditrices le point important de la sexualité dans le couple, dans le mariage et hors mariage.
Merci beaucoup, Patrick Evenot, d'avoir été l'invité de RTL Soir en direct. Je rappelle que vous êtes sociologue et historien des médias. Bonne soirée à vous. Et puis, je vous rappelle aussi cette page spéciale que vous pourrez retrouver sur notre site internet consacré à Ménie Grégoire, rtl.fr. Une courte pause et dans un instant, une série noire à Toulouse. Deuxième règlement de compte en moins de 48 heures. À tout de suite. RTL, il est 18h14, belle soirée. C'est le quatrième règlement de compte à Toulouse depuis le début de l'année et le deuxième dans la région en moins de 48 heures. Un homme de 24 ans a été tué hier soir dans le quartier sensible du Mirail par deux hommes très déterminés, Patrick Hisson.
Oui, les deux hommes sont arrivés sur deux roues, un scooter ou une moto. Le passager est entré dans une chicha. Il y a une dizaine de clients. La victime est seule à sa table. Le passager du deux roues fait alors feu à 8 reprises à l'aide d'une arme de guerre. Un coup de feu est également tiré à l'extérieur de l'établissement avant que le véhicule ne réussisse à prendre la fuite. La victime, un homme de 24 ans bien connu des services de police, serait le gérant du Milano, une pizzeria où un homme avait déjà été tué le 21 janvier dernier, tout près du quartier des Isards. Le procureur de Toulouse, Michel Vallée, n'a pas souhaité confirmer cette information, mais pour lui, il s'agit bien d'une succession de représailles.
On a quelques raisons de penser qu'il existe des liens, au moins entre certains des faits qui ont été commis depuis le 4 décembre. Est-ce qu'on est en présence de groupes qui s'opposent sur certains quartiers de Toulouse? Je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques en répondant par l'affirmatif.
En 6 mois, cela fait désormais 4 meurtres et 2 tentatives d'homicide. Une radicalisation entre 2 bandes rivales qui a amené cet après-midi le procureur de Toulouse à lancer un appel à témoins pour tenter de stopper cette spirale de l'ultra-violence.
Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. Un bureau de change d'Annemasse en Haute-Savoie a été cambriolé ce matin par des malfaiteurs. Ils séquestraient depuis 2 jours maintenant une employée et son compagnon chez eux pour se faire ouvrir la porte du coffre. Ils n'ont pas été blessés. Une marche blanche a eu lieu cet après-midi dans les rues du Havre en mémoire de Lucie, cette adolescente de 18 ans tuée mercredi sur un quai du tramway de la ville. Son meurtrier présumé, âgé de 15 ans seulement, est écroué depuis hier soir. En Corse, la soirée s'annonce encore difficile pour ces campeurs de Sarri-Solenzara au nord de Porto Vecchio. Ils ont été 1 millier à faire l'objet d'une évacuation géante. Un incendie a ravagé leur camping sans faire de blessés. Branle-bas de combat depuis pour reloger les sinistrés qui ont été accueillis aujourd'hui sur d'autres sites, comme celui de Marie-Noël Pascal, la directrice du village vacances Rivabella, à une 30aine de kilomètres de Sarri-Solenzara.
Ils sont arrivés un peu par vague, hein. Ils nous les ont envoyés au fur et à mesure, hein. Bon, il y avait des jeunes, il y avait des gens de tout âge. On voyait que les enfants, malgré tout, ils avaient été choqués parce que ce matin encore, ils disaient « Oh non, on reprend le bateau, quoi ». Ils voulaient rentrer. Il y en avait qui avaient tout perdu, quoi. Ils n'avaient plus rien, hein. Donc on leur a offert à la réception à boire... On les a accompagnés au bungalow. Ce matin, la même chose à la réception. On leur a offert des jus de fruits, des cafés. Quand on peut s'aider entre nous, on le fait. Hein. C'est tout à fait normal. Hein.
La solidarité, donc, la directrice de ce village vacances de Haute-Corse, jointe par Marie Monnier pour RTL. La journée était classée rouge et noire sur les routes dans les deux sens. Jusqu'à près de 600 km de bouchons cumulés ont été enregistrés à la mi-journée. C'est le temps maintenant de souffler avant demain. Les perturbations se concentreront pour les retours uniquement. Rouge dans l'ouest, le centre et autour de la Méditerranée. Orange partout ailleurs. François Hollande appelle aujourd'hui Kiev à faire preuve de retenue et de discernement dans les opérations militaires en cours dans l'est de l'Ukraine. Le président s'adresse également à la Russie en lui demandant de respecter l'intégrité territoriale du pays. Hier, la tension est encore montée d'un cran entre les deux pays. L'Ukraine affirmait avoir détruit une partie des véhicules blindés russes entrés sur son territoire. Alors que le Kremlin, lui, a démenti avoir franchi la frontière, c'est à n'y plus rien à y comprendre. Bonsoir Stéphane Sioran, vous venez d'arriver à Donetsk, à l'est de l'Ukraine, ville contrôlée par les insurgés pro-russes. Que se passe-t-il exactement sur place?
24 heures après l'annonce par le président Petro Poroshenko que l'Ukraine avait détruit une grande partie de la colonne de blindés russes qui serait entrée dans le pays, il est de plus en plus difficile d'y voir clair. Aucune photo de l'intervention n'a été publiée, personne ne sait où cette attaque se serait déroulée, et Moscou en profite pour qualifier les allégations ukrainiennes de fantasmes et d'entraves à son aide humanitaire. Pourtant, les séparatistes tiennent un discours beaucoup plus limpide. Le premier ministre pro-russe de la République populaire de Donetsk vient d'annoncer à ses troupes que 150 véhicules militaires, dont 30 tanks, ainsi que 1200 combattants formés en Russie, étaient en route vers l'Ukraine. Mais en attendant, à Donetsk, ce qui est absolument certain, c'est que les obus continuent de pleuvoir sur une ville écrasée par la canicule. Une dizaine de très lourdes explosions ont secoué le centre-ville de Donetsk en début d'après-midi. Dans un faubourg, des roquettes sont tombées près d'un chantier, tuant 3 ouvriers et un passant. Les affrontements de ces dernières 24 heures auraient fait 20 morts, selon la municipalité de cette métropole d'un million d'habitants qui s'est partiellement vidée de sa population.
Merci Stéphane Nassio, en correspondant de RTL en Ukraine. En Irak maintenant, les forces kurdes soutenues par l'aviation américaine lancent aujourd'hui une offensive pour reprendre aux djihadistes de l'État islamique le barrage de Mossoul, cette ville du Nord. Il s'agit du barrage le plus important du pays. À deux jours de la fin de la trêve entre Israël et le Hamas à Gaza, plusieurs centaines de personnes ont participé aujourd'hui à de nouvelles manifestations pro-palestiniennes en France, à Lyon ou à Paris, devant le Panthéon. En football, les retrouvailles entre Laurent Blanc et Claude Makélélé, ça se passe en ce moment sur les bancs de touche du Parc des Princes. Le PSG joue face à Bastia, la deuxième période est en cours. Philippe Sanfourche, où en est-on ?
Eh bien, on est en seconde période, 61 minutes de jeu précisément, et le Paris Saint-Germain a fait le plus dur en se mettant à l'abri. 2-0 désormais, un premier but du Brésilien Lucas en première période, et Edinson Cavani, le buteur uruguayen du Paris Saint-Germain, qui s'est donc illustré pour le deuxième but parisien sous un beau soleil dans un Parc des Princes aux trois quarts plein, hein, malgré eh bien cette période estivale et ce week-end du 15 août. Un Parc des Princes en travaux également, hein, puisqu'évidemment il y a la rénovation en vue de l'Euro 2016, mais le petit hic, le gros hic peut-être de l'après-midi côté Paris Saint-Germain, c'est la sortie sur blessure dès le quart d'heure de jeu de la star, du colosse qui n'est donc pas inébranlable, Zlatan Ibrahimovic, qui se plaignait de la ceinture abdominale, peut-être une déchirure musculaire, on en saura peut-être un petit peu plus après cette rencontre. Donc Zlatan sorti dès le quart d'heure de jeu, mais ça n'a pas trop d'incidence sur les performances du Paris Saint-Germain qui mène donc 2-0 après 62 minutes de jeu.
Et on vous retrouve Philippe dans le multiplex RTL, l'équipe des 19h pour ce résultat évidemment, et d'ici à la fin de ce journal, si il y a du changement, le multiplex justement RTL, l'équipe, c'est ce soir avec vous. Eric Silvestro, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous nous avez rejoints. 5 matchs au programme ce soir.
Oui, 5 rencontres en effet au menu à partir de 19h. Lyon, malgré de très nombreux blessés, veut confirmer sa victoire contre Rennes lors de son déplacement à Toulouse. Même chose pour Lorient et Nice, tous les deux vainqueurs lors de la première journée. Lens dispute de son côté son premier match de la saison à domicile contre Guingamp au stade de la Licorne à Amiens en raison des travaux à Bollard. Et ce sera le cas tout au long de l'année hein, pour les 100 et hors. Rennes veut en revanche se réconcilier avec son public en recevant Evian, Tonon Gaillard, sèchement battu par Caen 3-0 la semaine dernière. Enfin, Metz accueille Nantes à Saint-Symphorien après 6 ans loin de l'élite. On parlera également Première Ligue, hein, c'est la reprise du championnat d'Angleterre ce week-end avec la défaite surprise de Manchester United à domicile contre Swansea 2-1. Il y aura le top 14 également, vous le savez, nous sommes ensemble de 19h à 23h en compagnie évidemment de Pascal Praud.
Un joli programme, merci Eric, à tout à l'heure. On retourne tout de suite à Zurich pour les championnats d'Europe d'athlétisme où vous le savez, nous vous l'avons dit, Renaud Lavillény a retrouvé son titre de champion d'Europe. Troisième fois, un troisième titre consécutif pour le perchiste. Médaille d'or, il vient de réagir, on l'écoute.
C'est vrai que c'est très très plaisant parce que mine de rien, on a vu hier que c'était pas forcément facile de toujours gagner quand on était favori. Et j'ai réussi à montrer qu'on pouvait y arriver. Et puis d'autant plus que là, c'est la première fois que je gagne une compétition aussi importante en seulement 2 sauts. Donc voilà, il y a quand même énormément de sauts qui sont faits à l'entraînement pour en arriver là. Et puis voilà, championnat d'Europe, ça me réussit plutôt bien. C'est ma 6e victoire avec l'Indoor quoi, cumulée. Et puis bah, de partager ça avec Kevin, c'est bien, une bonne première expérience. Hier pour la perche française, on n'a pas à se plaindre. Cet hiver, on a eu un record du monde. Et puis là, cet été, on a 2 prologues. Voilà, on a tout l'avenir devant nous. Et c'est pour ça, c'est top, quoi.
Le triple champion d'Europe, Renaud Lavillény, à l'instant chez nos confrères de France Télévisions, après son beau succès et cette nouvelle médaille d'or pour l'équipe de France. Un résultat de Ligue 2 pour le compte de la troisième journée. Brest et Angers se sont neutralisés en football 0-0 cet après-midi. Tours reste le leader provisoire. On marque une nouvelle pause et dans un instant, le père de Grégory Lemarchal sera en ligne avec nous. Émission spéciale sur TF1 ce soir à l'occasion des 10 ans de l'entrée du chanteur à la Star Academy. Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, le chanteur Grégory Lemarchal entrait à la Star Academy. Quelques mois plus tard, il remportait haut la main le télécrochet sur TF1.
La Star Academy 4 a été remportée par Grégory.
La victoire de Grégory s'ensuit ensuite un succès sur scène, succès dans les bacs. Puis le chanteur malade meurt au printemps 2007 des suites de la mucoviscidose. TF1 diffuse donc ce soir un concert hommage enregistré sur la scène du Zénith de Paris. « La belle voix de Grégory Lemarchal à la Star Academy il y a 10 ans maintenant. Bonsoir Pierre Lemarchal.
Bonsoir.
Merci d'être l'invité de RTL Soir. Vous êtes le père de Grégory. D'abord peut-être un mot sur cet hommage à la télévision. Ce soir, beaucoup d'émotions. Un grand concert avec sur la scène Patrick Fiori, Yannick Noah, Patrick Bruel ou encore Nolwenn Leroy. Cette mobilisation 10 ans après, elle continue. Ça vous touche toujours, Pierre Lemarchal?
Ah oui, évidemment, oui, on est très touchés par ça. Je pense que ça va être une belle soirée. Et effectivement, avec des gens qui sont fidèles, non seulement autour de Grégory, mais autour du combat qu'on mène. Et en tous les cas, ce sont des gens qui sont très, très attachés au personnage qu'était Grégory et à tout ce qu'on fait. Donc ça nous touche, évidemment.
Vous parliez justement de ce combat qui continue aussi, celui contre la mucoviscidose, cette maladie génétique qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Depuis le décès de Grégory, il y a 7 ans maintenant, vous avez donc créé l'association Grégory Lemarchal pour finalement faire gagner des années de vie aux malades, c'est ça, hein ?
Oui, bah, surtout le but, c'est vivre avec la mucoviscidose. La force est en nous, la force que nous donne Grégory et on essaye de rendre des choses meilleures dans le quotidien des malades avec la perspective évidemment de guérir de la mucoviscidose.
Alors ce quotidien des malades justement amélioré, comment vous pouvez agir et comment vous avez déjà agi au cours des années qui viennent de s'écouler ?
Il faut savoir déjà dans un premier temps que c'est un quotidien qui est énorme. Mmh. Ça ne se voit pas, c'est une maladie qui ne se voit pas, donc ils ne sont pas sur une chaise roulante ni quoi que ce soit, mais c'est 2 heures de soins par jour. Ça en fait des jeunes en fait qui sont toujours à la recherche de la respiration, donc des jeunes qui sont toujours très actifs, on va dire, parce qu'ils veulent vivre, ils oui, veulent respirer. Et c'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Oui. Donc on cofinance des projets de recherche pour améliorer les choses. Par exemple, la dernière en date, c'est la recherche sur la transplantation pulmonaire, qui a été quelque chose d'énorme, puisqu'on a réussi à mettre 4,4 millions cofinançant avec l'association Vaincre la mucoviscidose, qui permet de récupérer des greffons, et il y a eu des progrès énormes de ce côté-là, et grâce à l'argent de nos donateurs, et autour de Grégory, on a sauvé des vies, ça c'est clair. Mais nous, ce qu'on veut, c'est plus de transplantation pulmonaire et vivre avec la mucoviscidose.
Alors, on a parlé justement du financement de la recherche qui est capitale. Hein. Il y a aussi les actions de tous les jours que vous pouvez faire dans les hôpitaux. Quelles sont-elles? Le but, c'est vraiment que la vie des malades soit simplifiée ou en tout cas bien plus agréable.
Bah oui, c'est un peu le deuxième axe de nos actions, c'est-à-dire que on s'occupe des infrastructures dans les hôpitaux, on s'occupe des projets de vie aussi de quelqu'un qui a la mucoviscidose. Oui. On a pas mal de projets qui ont été faits et qui sont encore en cours, et puis beaucoup de projets encore futurs de ce côté-là, parce que je vous garantis qu'il y a du boulot là-dessus. Et voilà.
Ces difficultés que vous évoquez, Pierre Lemarchal, dans les hôpitaux, il y a 10 ans et avant, quand vous accompagniez Grégory, c'est vraiment le sentiment que vous aviez, c'est d'être confronté parfois à un mur ou en tout cas à un environnement très très hostile qu'il faut changer.
Bah oui, évidemment, c'est du vécu. Hein. On a vécu tout ça et je vous garantis qu'on est passé dans des endroits absolument abominables dans les hôpitaux, avec sans doute les meilleurs médecins du monde, comme on dit, et c'est vrai, en France, on a ce qu'il faut. Mais des fois, on les reçoit dans des infrastructures qui sont insalubres, qui sont à la limite du scandale. Et c'est la première chose qu'on s'est dit, on va s'occuper des endroits où est passé Grégory. Et comme il y a eu un élément de générosité énorme de la part du grand public, en 2007, quand Grégory a disparu, eh ben, on a pu ouvrir nos actions sur tous les services en France qui s'occupent des gens qui sont atteints de mucoviscidose.
10 ans après le début de la Star Academy, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur tout ce qui s'est passé, tout ce que vous venez de nous évoquer sur RTL, Pierre Lemarchal, vous êtes fier de votre fils ?
Bah oui, oui, bien sûr, je suis fier de mon fils, mais qui n'est pas fier de son enfant, quoi.
Bien sûr.
Maintenant, effectivement, il a vécu des choses extraordinaires. Il a pu réaliser un rêve, en fait. Certes,
devenir
pas très
chanteur.
Longtemps, mais le rêve de chanteur, mais ça aurait pu
et
être
avoir du
rêve.
Succès.
Là, c'était son trip, c'était la chanson. Il aurait pu être architecte. Quelle que soit la passion qu'on a, l'essentiel, c'est de réaliser ses rêves. C'est vrai qu'il y a une étoile qui est passée, à mon avis, et il a pu la saisir et faire ce qu'il a fait. C'est ce qui a sensibilisé les gens. Et de plus, avec le mal qu'il tenait, je pense que ça a multiplié ces choses-là. Et cet élan de générosité absolument énorme qui nous a permis de continuer le combat, qui n'a pas commencé depuis 2007. Hein. Nous, notre combat, il a plus de 30 ans. On continue à véhiculer le nom de Grégory à travers le combat qu'on mène, mais je dirais plus qu'il mène lui. C'est lui qui mène ce combat.
Voilà, même sans être là, il poursuit le combat.
On n'est pas tout seul. Je crois qu'on a une flamme en dessous qui nous pousse, qui nous donne cette force à continuer à se battre. Et croyez-moi, on en a de la force et on n'est pas prêt de lâcher.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre Lemarchal, père de Grégory Lemarchal, pour ce beau témoignage et d'avoir été notre invité dans RTL Soir. Et puis, je rappelle, cette émission, hommage ce soir à votre fils sur TF1, une voix d'ange depuis 10 ans, c'est à 20h55. Et puis, je renvoie tous nos auditeurs au site internet de RTL pour les liens vers l'association Grégory Lemarchal et la possibilité, évidemment, de faire des dons. Merci beaucoup, Pierre Lemarchal. Bonne soirée.
Merci à vous. Merci, RTL. Merci beaucoup.
La voix d'ange de Grégory Lemarchal il y a 10 ans à la Star Academy. Merci d'écouter RTL 18h30. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour l'information. On refait les courses et Bernard Glass. C'est dans un très court instant. Très belle soirée sur RTL.
RTL.fr, toujours avec vous.
Ordinateur, smartphone, tablette, avec le nouveau site RTL.fr, vivez la radio amplifiée avec RTL sur tous vos écrans.